Voilà, je vous invite à ouvrir votre Bible pour l'étude en 1 Timothée chapitre 2. Il y a des endroits où on passe vite. C'est comme quand on est en promenade, quand on est sur une autoroute, on roule à 130. Et puis, il y a des moments où le chemin il est sinueux. Parfois, ça monte, ça descend. Donc là, on doit freiner, faire attention au virage. Il y a des écueils sur la route et on prend plus de temps pour passer. Et peut-être que les passages comme ceux que l'on a sont des passages dans lesquels il faut prendre un petit peu de temps parfois, parce qu'on n'y va pas forcément toujours souvent. Ce ne sont pas des passages que l'on aime particulièrement en traiter, mais ce sont des passages qui sont de la parole de Dieu, donc il est important de tout voir. L'apôtre Paul, on le disait une fois, il a dans le livre des Actes, quand il parle aux anciens de l'église d'Éphèse, il les réunit et puis il dit « Je suis net du sang de vous tous, parce que je ne vous ai rien caché du conseil de Dieu, je vous ai tout fait connaître. » Et il pouvait partir en disant « Voilà, j'ai la conscience tranquille, je suis pur du sang de vous tous, parce que voilà, il leur a fait savoir tout ce que l'Écriture dit. » Alors, nous sommes dans 1 Timothée chapitre 2, donc je vous invite à ouvrir votre Bible dans 1 Timothée chapitre 2, et à partir du verset 9, 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 9. Donc, je vais relire ces textes pour que les paroles soient dans notre pensée. Alors, du verset 1... Peut-être je peux juste dire que du verset 1 à 8, l'apôtre Paul parle des hommes, un petit peu, on pourrait dire, de ce qui est bon, agréable et parfait. Il parle de la prière. Il dit « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières », etc. Et puis ensuite, au verset 8, il parle spécifiquement des hommes. Il dit « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. » Puis il ajoute « Je veux aussi que les femmes, vêtues de manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. » Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier et ensuite, et Ève ensuite. Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Alors, je vous dis tout de suite, on verra pas le verset 15 aujourd'hui, parce que c'est l'un des versets les plus difficiles selon les commentateurs de la Bible. Donc, c'est pas, faut vraiment prendre. C'est pas qu'on va faire une étude entière là-dessus, mais je préfère laisser pour une autre fois avec la suite que de parce qu'il y a des choses qu'on doit revoir encore aujourd'hui dans notre passage. Alors. On pourrait dire que les versets 9 à 12, l'apôtre Paul traite du dessein de Dieu pour la femme dans l'Église. Et puis, comment la femme doit, quelle doit être la tenue même de la femme dans l'Église, parce qu'il parle des vêtements, et quelle doit être la retenue, j'aime bien le dire comme ça, de la femme dans l'Église, parce qu'il parle du fait d'être modérée dans les paroles, modéré dans la tenue et modéré dans la prise de parole. Alors, on avait déjà considéré les versets 8 à 10 avec le commandement de se vêtir de manière décente avec pudeur, donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais je voulais juste montrer que l'apôtre Paul donne un commandement. Il faut bien réfléchir à ce que c'est qu'une tenue décente avec pudeur et modestie. C'est très important, quand la Bible dit quelque chose, de se poser la question de ce que cela veut dire pour appliquer notre cœur à s'y soumettre. Il parle, donc après il dit qu'elle ne se parle ni de perles ni d'habits somptueux, mais plutôt qu'elle se parle de bonnes œuvres. Et donc il donne la motivation de ce commandement, et donc l'objectif de la femme chrétienne doit être des bonnes œuvres. Ça ne doit pas être de traiter l'apparence et d'attirer par son apparence, mais d'attirer par ses bonnes œuvres. Alors, on ne dit pas que la femme doit s'habiller dans un sac de pommes de terre. C'est pas ce qu'il est en train de dire, qu'elle ne doit pas s'apprêter. C'est pas ce qu'il est en train de dire. Je crois pas qu'il fait une défense expresse de s'habiller convenablement, ni même d'avoir des bijoux. Et cela, je le soutiens avec ce qu'il dit après concernant l'enseignement aussi, hein. Il dit pas que la femme ne doit pas enseigner. On l'avait dit la semaine dernière. Du tout ne doit jamais enseigner. Donc c'est pas une interdiction absolue. Ni dans le cas de l'enseignement, ni dans le cas des habits. Mais par contre, il dit que ça doit être avec pudeur, avec modestie. Donc, il y a une forte importance pour nous de chercher à considérer ce que cela veut dire. Donc, on pourrait écouter ce qu'on avait déjà dit là-dessus. Et puis, surtout, il insiste sur le fait qu'elle doit se parer de bonnes œuvres. C'est-à-dire qu'il y a un conflit entre le fait de vouloir, le fait d'être reconnu pour ses bonnes œuvres, de rechercher les bonnes œuvres, et le fait de rechercher, de plaire par son apparence, de se montrer par son apparence. Il dit ça, c'est quelque part conflictuel. Hein. C'est-à-dire qu'il dit qu'elle ne se parle pas de ça, mais de ça. Hein. Elle peut pas faire les deux. Okay. Et donc la femme chrétienne, celle qui fait profession de servir Dieu, doit se faire connaître vraiment par ses bonnes œuvres. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et puis, il parle maintenant, on l'a vu la semaine dernière, de la prise de parole de la femme dans l'Église. Que la femme, verset 11, écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Donc, on pourrait dire que il parle en deuxième lieu de la soumission qui honore Dieu. On pourrait dire, il a parlé de la tenue qui honore Dieu, dans les versets 9 à 10, et dans les versets 11 à 14, il parle de la soumission qui honore Dieu. Alors j'avais posé la question, quels sont les mots importants qui qualifient le statut de la femme dans l'Église dans ces versets 11 et 12? Est-ce que vous avez mis des choses? Quels sont les mots importants ici? Ouais. Est-ce qu'il y en a qui ont regardé les questions? Oui, hein? C'est bien, hein. Il faut les regarder, hein, parce que ça nous permet de profiter davantage de l'étude. Hein. Là, il y a le mot, oui, j'ai entendu. Soumission, oui. Écoute. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Silence. Combien de fois il est dit silence? Deux fois, hein, silence, oui. Il y a instruction, le fait d'écouter l'instruction, oui. Ne pas prendre de l'autorité. Donc, ce sont les choses qui donc il y a des aspects positifs qu'elle écoute. Il y a des aspects, on pourrait dire, négatifs. N'enseigne pas et ne prenne pas de l'autorité sur l'homme. Et puis il y a des aspects, comment je pourrais dire ça, d'attitude, hein, peut-être d'atmosphère. Il dit silence et entière soumission. Donc on pourrait dire ici que peut-être le mot, si on devait qualifier par un mot l'attitude qui est demandée de la femme dans l'Église, lequel vous mettriez?
Condescendance,
oui. D'autres?
S'abstenir,
oui. Moi, tout simplement, soumission. J'aurais retenu soumission. Je crois que ça, c'est le mot qui pèse dans le sens d'acceptation de ce qui doit être, hein, tout simplement ici. Alors, quelle est la nature, on pourrait dire, de cette soumission ici? On trouve, donc on a parlé du mot silence, on trouve le mot silence combien de fois? Deux fois. Hein. Donc, dans le verset 2, le mot silence est utilisé, c'est le mot pratiquement pareil, à une lettre près, et le mot est traduit par tranquille. Par exemple, verset 2 du chapitre 2, il dit pour prier pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, pour que nous menions une vie paisible et tranquille. Et donc, on pourrait dire paisible et silencieux, c'est pratiquement le même mot qui est utilisé ici. Mais dans les versets 12, quand il emploie le mot silence, il le met en contraste avec quelque chose d'autre. Est-ce que vous voyez ça? Verset 12, regardez, qu'est-ce qu'il dit? Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Donc il y a un mais qui vient faire un, on pourrait dire, un contraste avec quelque chose d'autre. Avec quoi ça fait contraste, le mais ici? avec l'autorité, le fait de prendre de l'autorité, on pourrait dire. Donc parfois, pour comprendre le sens de quelque chose, il faut voir à quoi il est opposé. Ici, l'apôtre Paul dit, donc, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais de demeurer dans le silence. Donc, en quoi consiste le silence qui est demandé? On pourrait dire à ne pas prendre de l'autorité sur l'homme. À quoi consiste cette attitude, on pourrait dire, de calme, de soumission qui est demandée? C'est de ne pas prendre de l'autorité sur l'homme. Donc, la soumission consiste à avoir une attitude silencieuse, c'est-à-dire qui ne cherche pas à prendre l'autorité sur l'homme. Et la tentation de prendre l'autorité sur l'homme est certainement ce que Dieu a prévenu après la chute. Rappelez-vous dans Genèse chapitre 3 verset 16, quand il dit à la femme, vous l'avez lu tout à l'heure, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. D'accord? Alors, je ne crois pas que ce texte parle de désir affectif ou sentimental ou physique qui pourrait attirer la femme vers son mari, parce qu'on trouve un petit peu la même chose, la même expression utilisée dans Genèse chapitre 4, verset 7. Quelqu'un a ça? Genèse chapitre 4, verset 7. Le premier qui trouve le lit. Genèse. Voilà, c'est un peu la même chose. Le péché se couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. Okay? Donc c'est comme, voilà, le péché est là prêt à prendre le dessus. C'est pas que le péché va te caresser, va être affectif. Non, il est là prêt à prendre le dessus, mais toi, tu dois dominer sur lui. Et ici, il dit à la femme, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Et c'est probablement, on pense, ce désir de prendre aussi une certaine autorité. Et puis et quand on regarde dans le monde ce qui se passe, eh bien on a d'un côté, on voit les femmes qui de plus en plus prennent du pouvoir et de l'autorité, et puis après il y a des conflits qui naissent, tout le combat qu'on a maintenant, égalité homme-femme, fondement ce conflit que je pense que Dieu décrit ici. Donc il y a cette tentation toujours de prendre l'autorité. Alors on peut dire que l'interdiction que Paul fait à la femme n'est pas de ne pas parler du tout, mais de ne rien faire qui pourrait être une prise d'autorité sur l'homme. Alors comment cette prise d'autorité se manifeste-t-elle de manière évidente? Je ne sais pas si j'avais mis ça. Comment cette prise d'autorité se manifeste donc de manière évidente, selon vous? Dans le passage, si on regarde le passage. Oui, la prise de parole dans l'enseignement. On pourrait dire ici l'enseignement, parce qu'il dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais de demeurer dans le silence. » On pourrait dire donc cette prise d'autorité a essentiellement pour manifestation le fait d'enseigner, le fait d'enseigner. Et d'enseigner donc l'écriture, absolument. Et donc, et on avait déjà souligné cela la semaine dernière, le fait d'enseigner place dans une position d'autorité. On le dit encore une fois, l'apôtre Paul n'interdit pas de manière absolue à la femme d'enseigner. On voit beaucoup la femme qui enseigne dans la Bible, elle enseigne ses enfants. La Bible encourage les fils à ne pas rejeter l'instruction de leur mère. On avait parlé de Timothée, on a parlé de Priscille et Aquilas qui avaient pris ensemble Apollos. Et puis, on a parlé de l'enseignement que les femmes d'âge mûr doivent donner aux jeunes femmes pour les aider dans leur foyer. Donc tout cela, il y a tout un champ, on pourrait dire, où la femme peut enseigner. Mais il y a quelque chose de particulier dans l'enseignement quand il est en rapport avec les hommes. Et Paul dit ici, donc, que la femme ne doit pas prendre autorité sur l'homme d'enseigner, et donc, dans une assemblée, cela sous-entend où il y a des hommes, prendre la parole et d'enseigner quand il y a des hommes. Alors, qu'est-ce qui montre ici que c'est le rapport avec les hommes qui est quelque chose? Eh bien, c'est la question de prendre de l'autorité sur l'homme. Il ne dit pas, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité. Il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Donc c'est dans le rapport avec l'homme qu'il y a quelque chose qui, sur lequel il faut bien faire attention. Donc Calvin, il disait ceci, on l'a dit la semaine dernière, la charge d'enseigner ou de prêcher est une prééminence dans l'Église. Et quand la femme prêche, elle est à la tête de tous les hommes qui y sont. C'est comme cela. C'est par de fait, le fait d'enseigner donne cette position-là. Ce n'est pas que la personne elle est plus grande que quelqu'un d'autre, pas du tout. C'est la fonction qui fait que les choses, du point de vue de Dieu, sont considérées ainsi. Alors la question qui se pose, j'avais mis question 2, c'était que disent les versets 11 et 12 sur la responsabilité de l'enseignement dans l'Église. Donc c'est ce qu'on vient de dire là. Donc j'ai répondu à votre place, la question qui se pose, c'est laquelle, quand on a dit cela? Ah, c'est pourquoi? D'accord, on comprend. Paul dit, je ne permets pas. Enseigner, c'est une position d'autorité. D'accord. Je ne permets pas à la femme d'enseigner sur l'homme. D'accord. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que... pourquoi interdire à la femme une telle position? Et souvent, les gens... Bon, il y a des gens qui avancent des idées farfelues, parce que la femme est moins intelligente que l'homme, ou des choses comme ça. Bon, on sait bien que c'est pas vrai, mais il y a des gens qui essayent de trouver, on s'amuse avec beaucoup de réponses farfelues, etc. La femme, elle est plus fragile que l'homme, etc. C'est pas, Paul va donner, donc il va donner quand même des raisons pour lesquelles il place de manière forte cette interdiction. Et on regarde donc dans les versets 13 et 14, on a la réponse que l'apôtre Paul donne. Qu'est-ce qu'il dit au verset 14? Il dit, verset 13, pardon, « Car Adam a été formé le premier et Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. » Donc la question que je vous posais, c'est quels sont les deux événements dont Paul fait référence au verset 13 et 14. Non, quel événement? Deux événements. Lequel? Premièrement, la création d'Adam et Ève. Ça, c'est l'événement, la création d'Adam et Ève. Adam a été formé le premier. Ça, c'est là, un verset pour ça, c'est le verset 13. Et au verset 14, effectivement, il parle de la chute. Donc, il prend deux événements qui se situent à l'origine de l'histoire humaine. La création et puis la chute. D'accord? Et qu'est-ce qu'il fait, ma deuxième question, c'était qu'est-ce qu'il fait ressortir de ces événements? Qu'il y a un ordre établi. On pourrait dire presque un double ordre, non? Un peu. Il y a un ordre dans la création et il y a un ordre dans la chute. Il est en train de dire ça. Donc on pourrait dire qu'il présente cela comme le problème. Il dit pourquoi? Ben, la question, c'est une question d'ordre créationnel. Il dit c'est quelque chose qui se fonde ici dans la création. Donc il fait ressortir l'ordre de la création, comme on a dit, l'ordre de la chute. Adam a été formé le premier. Il n'a pas dit Adam et Ève ont été formés par Dieu. C'est ce qui est vrai. Il dit Adam a été formé le premier. Donc il insiste sur l'ordre d'apparition. Et si vous lisez Genèse chapitre 2 qu'on a lu la semaine dernière, vous voyez bien que Adam a été créé, qu'il a fait des choses, etc. Et puis la femme a été créée ensuite. Et puis deuxièmement, il dit que ce n'est pas Adam qui a été séduit, mais Ève a été séduite. C'est comme s'il disait, voilà, Ève la première a été séduite. Puis après, la transgression, et puis après, Adam aussi, bien sûr, a péché. Donc, ce que l'apôtre enseigne, c'est quoi? En fait, on pourrait dire ici, il dit que le commandement qu'il donne au verset 11 et 12 trouve son fondement dans l'ordre que Dieu a établi à la création de l'homme et de la femme. C'est là qu'il faut aller chercher le fondement. Quelle est l'attitude qu'on a quand on lit ces versets, que la femme n'enseigne pas dans l'église, etc., etc.? On dit, oh, mais... C'est peut-être la pensée de Paul. C'est peut-être son sa préférence. C'est peut-être aussi lié à leur culture, parce qu'à l'époque, voilà, les femmes avaient une certaine place particulière dans la société. Et quand il prend la chose et qu'il met comme fondement l'ordre que Dieu a établi à la création, il dit que ce qu'il dit là n'est pas son sentiment, n'est pas ce qu'il a envie de voir, mais ce que Dieu, l'intention même de Dieu, dans le rapport qui doit exister en termes d'enseignement dans l'Église entre l'homme et la femme. Il dit, cette interdiction que je fais, ce que je dis concernant l'attitude de la femme à l'Église, trouve son fondement dans l'ordre que Dieu a établi dans la création. Alors si nous lisons Genèse chapitre 2, 7 et 8, et puis Genèse chapitre 2, versets 15 et 17, on voit que Dieu crée l'homme, on va pas prendre le temps parce qu'on n'a pas le temps de le lire, mais vous pouvez le faire à la maison, il le plante il plante un jardin, il place l'homme dans le jardin, il fait pousser de beaux arbres fruitiers, il confie à l'homme la mission de cultiver le jardin et de le garder. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Il donne à l'homme un ordre. Et lui dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, c'est à l'homme que Dieu confie l'ordre et la responsabilité, on pourrait dire, d'enseigner à sa future femme ce que Dieu a dit. Ève n'était pas là quand Dieu a donné l'ordre. D'accord ? C'est Adam à qui Dieu a donné l'ordre. Et il a créé le premier avec l'ordre de ne pas faire et de faire en sorte que, on pourrait dire, les autres ne fassent pas, que les autres obéissent surtout à la parole de Dieu. Et c'est important de souligner cela. Et il l'a fait, si vous voulez, l'apôtre Paul dit, on a là la volonté de Dieu dans la relation entre l'homme et la femme avant que le péché n'intervienne. Donc là, c'est quelque chose qui est très fort ici. Et Jésus fait la même chose, vous vous rappelez dans quelles circonstances? Quand les pharisiens viennent le voir et puis lui parlent de quoi? De divorce. Il dit, est-il permis à un homme de divorcer sa femme? Et qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, n'avez-vous pas lu, il dit qu'au commencement, le Créateur, voyez encore une fois, il fait appel ici à au Dieu qui a créé, à l'ordre qu'il a créé, à ce qu'il a établi à la création. Il dit au Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme. Et il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Il part vraiment de ce que Dieu a fait à la création pour dire ce que l'on doit faire maintenant. Et l'apôtre Paul fait la même chose, il parle de ce que Dieu a fait à la création pour dire comment on doit comprendre la relation qui doit exister dans l'Église de Dieu concernant l'enseignement et la prise d'autorité maintenant. Et c'est là qu'on doit chercher cela. Et donc il dit ceci, que même si le péché est intervenu, on pourrait dire l'ordre de Dieu demeure toujours. Et ce qui est le meilleur pour l'équilibre de la relation entre l'homme et la femme, dans l'Église, on pourrait dire dans le foyer et aussi dans la société. Il dit cet ordre que Dieu a établi ici, c'est le fondement de l'ordre qui doit exister, d'accord ? L'ordre de responsabilité, de leadership que l'homme doit exercer dans son foyer, je crois dans la société aussi, et puis dans l'Église. Particulièrement. Et ça, c'est une chose importante. Ça, je pense qu'il y a cet aspect-là dans la réponse qu'il donne, dans le fait qu'il choisisse. Adam a été formé le premier. Mais il ne dit pas ça seulement, il dit aussi, et ce n'est pas, une deuxième chose, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Donc il donne ici une seconde raison, en se référant cette fois-ci, on l'a dit, à la chute. Alors, c'est le texte que vous avez lu ce soir, donc on ne va pas le relire. Mais quels sont les éléments de ce récit dans Genèse 3? Premièrement, qu'est-ce que l'on voit? On voit que le serpent était le verset commence comme ça, le plus rusé de tous les animaux que l'Éternel Dieu avait fait. Il était rusé, subtil. D'accord? L'apôtre Paul utilise cela quand il dit aux Corinthiens, je crains que vos cœurs ne... je crois que je l'ai noté, il dit, si je le retrouve, dans 2 Corinthiens 11, verset 3, je crois. Je ne l'ai pas noté. Quelqu'un là? 2 Corinthiens 11, verset 3, il emploie un peu... je n'ai pas le verset exact en tête. Voilà. À l'égard de Christ. Voilà, il dit de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse. Et donc il dit voilà, c'est le serpent, là, il fait Dieu fait ressortir là, dans Genèse 3. Et l'apôtre Paul utilise là aussi dans son explication pour faire sortir que Ève a été séduite à cause de la ruse du diable, la ruse du serpent. Donc le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Ici, on voit qu'est-ce que fait le serpent après. Il va parler à Adam. Vous êtes d'accord? Non. Il parle à qui? À Ève. Il parle à Ève. Autrement dit, qu'est-ce qu'il fait? Il contourne l'ordre autoritaire que Dieu a établi. D'accord? Dieu a dit à Adam, tu ne feras pas ceci, tu ne mangeras pas de l'arbre. Mais le serpent vient et il court-circuite Adam et il parle à Ève. D'accord? Et lui propose... Voilà, tout ce qu'il lui propose. Il discute avec lui concernant l'ordre de Dieu. Maintenant, c'est elle. Elle est en train elle a la responsabilité je le dis comme ça, mais de gérer le foyer spirituellement. C'est elle qui discute, qui est en première ligne et qui va finalement enseigner son mari en lui disant, bah, écoute, tu sais, le fruit, il est bon. J'extrapole un peu, mais hein, il est bon et agréable à manger. Elle en mange, regarde, et puis elle lui en donne. Et il mange. D'accord? Donc, je pense que tout cela est à considérer ici. Et Ève elle-même affirme au verset 13, quand Dieu lui demande pourquoi tu as fait cela, elle dit, le serpent m'a séduit. D'accord? Et donc, Dieu reproche il dit au serpent, voilà, puisque tu as fait cela, il met une malédiction sur le serpent. Il dit à la femme, il met une malédiction sur la femme, il dit, puisque tu as fait cela, tes grossesses, etc., seront comme ceci. Et puis quand il va voir l'homme, qu'est-ce qu'il dit à l'homme? Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé l'arbre dont je t'avais dit de ne pas manger. C'est autrement dit, je vois ça comme le fait qu'il ait mangé l'arbre, c'est la conséquence du fait qu'il ait écouté sa femme et qu'il ait laissé prendre la position de leadership. Il aurait dû intervenir. Et parfois, on dit, des gens posent la question, mais est-ce qu'Adam était là, Adam n'était pas là? Le texte ne dit pas qu'il n'était pas là, hein. Et même le verset dit, quand elle propose à manger, par exemple, verset 6, il dit, la femme vit que l'arbre était bon et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence et qu'elle prit de son fruit, elle en mangea et elle en donna à son mari qui était auprès d'elle. Ok? On n'a pas l'impression qu'elle est allée se cacher pour le faire. D'accord, etc. Donc, on va pas dire qu'il n'était pas là. Surtout que le texte ajoute qu'il était auprès d'elle, hein. C'est pas juste pour dire, forcément, si elle lui donne, il faut qu'elle soit auprès pour lui en donner, d'accord? Donc pourquoi mettre son mari était auprès d'elle juste pour dire qu'il était là quand il lui a donné le fruit? Donc on peut penser que le fait qu'il dise qu'il était auprès d'elle, ça veut dire qu'il était là pendant tout l'événement, d'accord? Et il est, on sait, quand on lit l'Épître aux Romains, la Bible dit que c'est par un homme que le péché est entré dans le monde. Donc Adam est tout aussi fautif. Donc ce que Paul dit ici, quand il dit Ève a été séduite et non Adam, il n'est pas en train de dire que Ève est plus fautive qu'Adam. Il ne dit pas cela du tout. Il dit, on pense que ce qui s'est passé là, c'est que l'ordre que Dieu a établi a été contourné. Et regardez dans quelle situation cela a entraîné le monde. Ève et Adam étaient tous les deux tout aussi coupables. Mais il dit, voilà, l'ordre que Dieu a établi a été détourné. Ainsi, Satan, en séduisant Ève, il l'a poussée, on pourrait dire, à prendre le leadership, l'autorité, et être celle qui conduit son mari en lui proposant quelque chose. L'arbre est bon, agréable à la vue, précieux pour ouvrir l'intelligence, etc. Et donc Paul souligne vraiment que le non-respect de l'ordre établi par Dieu conduit toujours au désastre. Il dit voilà, le commandement il est fondé sur le fait que Dieu il a créé l'homme d'abord, il a créé la femme, ensuite avec un ordre qu'il veut établir. Voilà pourquoi il donne le commandement. Et il montre que, et si on ne suit pas ce commandement-là, si on le contourne, Ève a été séduite par Adam, donc Satan, il a fait quoi? Il a contourné la chose. Eh bien, voilà où ça mène, dans quel désastre cela mène. Et quand on abandonne le schéma établi par Dieu, même après la chute, parce que maintenant, Paul parle, on est après la chute, on est d'accord? Même après la chute, quand on abandonne dans les relations aujourd'hui le schéma que Dieu a établi, cela conduit toujours, toujours à la ruine. Et donc il dit, voilà pourquoi il donne ce commandement-là. Je ne veux pas être plus long, mais je vais donner quand même quelques petites applications, peut-être au moins deux pour ce soir ici. Qu'est-ce qu'on peut dire de cela? Même dans un monde déchu, frères et sœurs, même dans un monde déchu, l'observation de l'ordre de Dieu qu'il a établi à la création avant la chute demeure et il n'y a pas de meilleure solution pour les hommes. Parce que Paul, après la chute, cherche à maintenir cet ordre dans l'Église. D'accord ? En s'appuyant sur ce que Dieu a fait avant la création et en montrant comment le fait de ne pas obéir à ce commandement-là conduit à la chute. Paul ne dit pas « voilà quelle était l'intention du Créateur ». Mais la culture a évolué, les mœurs ont changé, alors il faut adapter les choses. On peut s'habiller un peu plus découvert, un peu plus moulant, un peu plus court. Non, il dit « on s'habille de manière modeste, avec pudeur, etc. » Il n'est pas question de mode. C'est une question de, on est un enfant de Dieu. Là, je paraphrase un peu les premiers versets sur la tenue. On est des enfants de Dieu. Les femmes sont des enfants. Celles qui sont chrétiennes, qui professent de servir Christ sont des enfants de Dieu. Elles ne doivent pas s'habiller de n'importe quelle manière. Elles doivent avoir, dit l'apôtre Paul dans le verset, l'apparence qui convient. Donc, il y a une apparence qui ne convient pas. Il est important de savoir laquelle convient et laquelle ne convient pas. Et donc, il ne dit pas non plus maintenant les femmes occupent des places importantes dans la société. C'est vrai, il y a des moments où la femme restait au foyer, etc. L'homme allait travailler. Mais ce schéma-là, il a volé en éclats. On vit dans une société maintenant où c'est l'égalité. Les femmes travaillent, les femmes occupent des postes importants. Elles sont patronnes d'entreprises du CAC 40. Il faut que l'Église accepte cela. Et que, voilà, on puisse voir un peu quand même de notre société dans l'Église. Ce n'est pas ce qu'il dit ici. Il dit ici que l'ordre que Dieu a établi avant la chute demeure. Et que l'enfant de Dieu, le chrétien, la chrétienne, doit tout faire pour que l'ordre de Dieu demeure et règne dans l'Église, dans les relations aussi du foyer. Okay? Il ne dit pas que, il dit que la volonté de Dieu plutôt est immuable et que ce qu'elle a été au commencement, elle est encore même aujourd'hui, après la chute. La bénédiction pour l'homme et la femme, qu'ils soient chrétiens ou non d'ailleurs, est toujours dans l'observation de l'ordre de Dieu. Même les gens qui ne croient pas en Dieu, mais qui, des sociétés, des gouvernements qui ne croient pas en Dieu, mais qui appliquent, qui cherchent par exemple à appliquer les commandements que Dieu donne, c'est une bénédiction pour eux. Parce que c'est ce qu'il y a de meilleur pour la gestion, pour les relations entre les hommes, les femmes et les citoyens d'un pays. Puis deuxième application que je voulais faire, c'est que l'homme et la femme chrétienne doivent accepter et remplir les responsabilités que Dieu leur a confiées, chacun à leur place, mais dans la relation qu'ils entretiennent les uns avec les autres. Adam, il a abandonné son rôle, son leadership. Il a abandonné, d'accord? Et de plus en plus d'hommes aujourd'hui se mettent en retrait, parfois même dans l'Église, hein, on regarde dans l'église, parfois, on se voit, moi, j'ai pas compté ici, hein, mais parfois, on voit qu'il y a plus de femmes qui assistent, plus de femmes qui sont disposées, disponibles pour faire les choses. Ce n'est pas, on est content qu'elles le fassent. Ce que je suis en train de souligner, c'est qu'il y a de, parfois, les hommes se donnent de plus en plus en retrait. Ici, dans la société, mais on trouve ça aussi dans l'église. Parfois, ils n'osent pas dire, prendre l'autorité que Dieu leur confie dans leur foyer. Et ils achètent la paix au prix de l'obéissance à l'ordre de Dieu. Il y a des moments où, dans le foyer, spirituellement, l'homme doit diriger comme Dieu lui demande de diriger. Il ne peut pas laisser la famille partir dans un sens. Non, il doit dire non, même si sa femme et ses enfants veulent faire cela. Il ne peut pas dire, ma femme et mes enfants veulent faire ça, donc je suis obligé d'y aller. Non! Si ça n'est pas, non, je le dis, hein, si ça n'est pas ce que Dieu veut, il doit dire non. Voilà ce que la parole nous enseigne. Nous ne pouvons pas faire cela. Nous ne pouvons pas faire cela. D'accord? Je dis pas que ça arrive souvent, hein, mais je dis, mais il y a des cas, hein, c'est déjà arrivé où voilà, la femme a emporté toute la famille et puis spirituellement, ça a été la dégringolade. D'accord? Parce que l'homme n'a pas osé et c'était, des hommes qui nous ont dit, hein, je cherche la paix de mon ménage. Oui, mais on ne cherche pas la paix à n'importe quel prix. D'accord ? On ne cherche pas la paix à n'importe quel prix. L'homme prend de moins en moins la responsabilité spirituelle dans le foyer, du culte, de famille. La Bible dit dans Éphésiens 5 que le mari doit faire quoi ? Il doit purifier sa femme par l'eau de la parole. C'est à lui que revient cette responsabilité. Pas dire à sa femme, mais occupe-toi des enfants, moi j'ai pas le temps. Non, c'est à lui que revient cette responsabilité de prendre soin spirituellement du foyer. Donc il doit étudier, il doit lire, il doit se préparer à cette responsabilité-là que Dieu lui a confiée. C'est Dieu qui lui confie cette responsabilité-là, parce que Adam a été créé le premier. Pour faire connaître à Ève, il a fait connaître à Ève ce que Dieu lui a, le commandement que Dieu lui a donné. Alors bien sûr, il y a des moments dans le foyer où on ne peut pas faire autrement. Hein. Il y a des foyers où il n'y a pas de mari, des foyers où il n'y a pas de femme, bien sûr, etc. On comprend bien ce qu'on dit. Mais quand il y a un foyer où il y a papa, maman, les enfants, et puis papa au Seigneur, maman au Seigneur, l'homme doit prendre la responsabilité. Pas une question de connaissance par rapport à sa femme, il doit prendre la responsabilité de diriger spirituellement le foyer. Dieu va lui demander des comptes. D'accord ? Et de même, je voudrais dire que la femme a usurpé, Ève a usurpé le leadership, quelque part. Hein. Et de plus en plus de femmes entrent dans la brèche laissée ouverte par l'homme et elles sont prêtes à répondre à la première sollicitation de faire des choses. C'est une bonne attitude, mais qu'est-ce qu'elles doivent faire ? Elles doivent toujours être désireuses que l'ordre de Dieu règne. Et dire non si ce n'est pas, d'accord, ce que Dieu veut. Hier, il y a une jeune fille qui est intervenue dans la rencontre hier, une jeune femme intervenue dans la rencontre hier, à qui on a demandé de participer au jeu de questions-réponses avec les jeunes sur la création. Et à la fin, donc elle a très bien fait, elle est docteur, hein, elle est quand même, elle a bien enseigné, elle sait de quoi elle parle. Hein. Et elle m'a dit... Après, elle m'a dit, tu sais, quand on m'a proposé, elle n'est pas mariée, mais quand on m'a proposé cela, la première chose que j'ai fait, j'ai appelé mon père, et puis j'ai dit, tu penses que je devrais le faire ? Il a dit, tu peux faire, parce que ce n'est pas une position d'enseignement devant l'église, tu peux le faire. Et j'ai trouvé ça d'une soumission, une jeune fille qui n'est pas mariée, qui peut dire, elle vit chez elle, hein. Elle a son travail, son emploi, son argent. Elle peut dire, j'ai demandé à mon père, est-ce que c'est bien que je fasse ça? Parce que je suis une femme, je ne veux pas prendre de l'autorité sur les gens. Même si elle a plus de connaissances là-dessus que moi, que beaucoup de gens qui étaient là, elle dit, je ne veux pas prendre de l'autorité. Parce qu'elle veut, c'est ça que ça veut dire. Donc celle qui veut plaire au Seigneur, elle ne dit pas, mais j'ai les diplômes pour, mais j'ai ceci, non! Elle dit, est-ce que, en faisant cela, j'obéis au commandement de Dieu. Est-ce que je ne contourne pas l'ordre d'autorité que Dieu a établi ? Si oui, je ne fais pas. Sinon, ben oui, je peux faire. C'est ça que je veux souligner ici. Je vais m'arrêter là parce que le temps passe, hein. Mais que le Seigneur nous aide à vraiment mettre sa parole en pratique. Chers frères et sœurs, ce qu'il y a de meilleur pour nous, et qui nous apportera le plus de bénédictions et de joie, c'est de suivre et d'obéir aux commandements que Dieu donne. Peu importe ce que le monde dit. Ce qui est normal, c'est pas ce que la télévision dit. C'est pas ce que les médias disent. C'est pas ce qu'on voit dans les films. C'est ce que la parole de Dieu nous dit et nous commande. Notre bonheur et notre joie se trouvent vraiment quand nous allons mettre en pratique la parole de Dieu. Prions. Seigneur, merci encore pour ta parole qui est si précieuse. C'est vrai, elle est à contre-courant de tout ce que nous pouvons voir bien souvent dans le monde, mais nous savons que le monde est sous la puissance des ténèbres. Nous te prions que tu nous gardes et que tu nous rendes désireux de serrer ta parole dans nos cœurs, d'obéir à ce que nous y lisons comme commandement. Donne-nous de trouver notre plaisir dans ta loi, de la méditer jour et nuit, pour la gloire de ton nom. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse.